Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h30.
Jean-Christophe Drouet.
10h06, on est de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir. Ensemble jusqu'à midi, tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Alors si vous avez raté la première heure, franchement, allez la télécharger. Elle était de très belle facture avec un grand Christophe Cessieux. Nous avons parlé du salaire de Kylian Mbappé. On a parlé d'Arthur Fils, de l'Olympique de Marseille.
Du RPR.
Du RPR. Pourquoi avons-nous parlé du RPR? Eh bien, il faut absolument
et
aller
Patrick
télécharger.
Patrick Sabatier aussi. On a parlé de Patrick Sabatier.
Faut pas l'oublier. Le podcast. Voilà, on a évoqué plein de choses. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à aller nous télécharger. Toujours avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, David Douillet et Simon Dutin dans quelques instants. Red Bull a-t-il déjà plié la saison? Ce sera notre question. 10h30, un homme en colère. Un homme heureux, plutôt, aujourd'hui. Oui, il est heureux. Pierre Amiche adore. Et il va nous le dire pourquoi adore. Hervé Renard qui a vécu une magnifique intronisation hier au siège de la Fédération Française de Football. Et puis 11h, le bras de fer des GG autour de Lionel Messi envoyé un petit peu partout dans le monde. Un jour une destination, soit à Barcelone, soit en Arabie Saoudite, soit à Miami. Lionel Messi fait-il encore rêver? Ce sera notre question. Et puis, ne manquez pas cette séquence, votre nouvelle séquence. Le guet-apens pour les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Alors mes GG, dans quelques minutes, à quel débat caché vous vous attendez, Christophe Cessieux?
Écoute, on est quand même dans un week-end, il y a d'un côté le Tour des Flandres, de l'autre côté la Coupe d'Europe de rugby et on a deux débats sur le PSG. Donc j'espère qu'il y aura quand même au moins un débat sur le rugby, sur le vélo.
Moi je pense que ce sera Neymar.
Bah, c'est possible. C'est fort de connaissant, c'est fort possible.
Simon Dutin.
Qui doit être le mieux payé, Team Cessieux versus Team Drouet? Voilà. Et sinon, plus sérieusement, je suis avec mon collègue Christophe. Faut-il supprimer la Coupe d'Europe de rugby? Christophe Laporte mérite-t-il une place de leader dans une grosse équipe? Ou le sport français doit-il créer son Hall of Fame?
J'ai bossé un peu, mon gars.
Dis donc, il envoie trois débats sympas. Ok, bravo. Stephen Brun.
Écoute, moi j'ai bossé aussi et je suis arrivé à la conclusion que le débat pourrait être Douillet-Cessieux, la bataille pour la succession de Philippe Martinez de la CGT.
C'est déjà fait.
Ça fait un très bon débat.
J'aimerais bien voir David avec une belle moustache à la Martinez.
Vous savez quoi? On va peut-être changer, on va peut-être faire ce débat. David Douillet, tu penses à quoi?
Moi, je pense aux quatre médailles d'or qui ont été gagnées hier par les judokas en Géorgie dans un grand chelem.
Non, c'est pas ça.
Et je m'en fous, je pense à ça.
En Géorgie? T'es sûr que c'est pas en Antalya plutôt?
Allô?
C'est en Turquie, non? C'est en Turquie, c'est pas sous un tunnel.
Bon, en tout cas, ce sera pas ça. Mais bravo en tout cas pour vos différentes propositions.
Quelqu'un qui s'est rapproché du truc.
Et surtout, il faudrait prévoir un cadeau le jour où quelqu'un va trouver vraiment, ce serait ça.
Alors moi, je pense que j'ai pas bon, mais sinon les autres.
Ouais, mais peut-être que je vais changer, donc peut-être que tu auras raison.
Alors attends, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a un cadeau à gagner pour celui qui trouve le débat caché?
Pas encore. On installera ça dans les différentes semaines. Mais peut-être que quelqu'un s'en rapproche un petit peu. On verra ça.
Ce sera moins de toi.
On verra ça dans quelques minutes. Pierre Daninos a dit un jour, les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour propre que d'essence.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Le bûcheron bûcheur, c'est le jour de la marmotte.
C'est la victoire! La victoire de Max Verstappen!
Et voilà la victoire de Max Verstappen maintenant!
Magnifique victoire de Verstappen!
I don't get it, what the f*** is this about?
C'est le jour de la marmotte!
Verstappen, vainqueur de ce Grand Prix! Nouvelle victoire de Verstappen!
What the f*** are you guys saying?
Nous allons voir la marmotte!
On n'a pas déjà fait ça hier!
Magnifique victoire de Verstappen!
Verstappen!
Max Verstappen! Verstappen!
Excusez-moi, mais où est-ce qu'ils vont comme ça?
À Gobbler's Knob, c'est le jour de la marmotte!
Et voilà Verstappen!
Max Verstappen!
Verstappen!
Max Verstappen.
Magnifique victoire de Max Verstappen.
Unbelievable, mate.
Dis-moi quel jour on est.
Le jour de la marmotte.
C'est drôle, je croyais que c'était hier.
J'ai glissé chef, comme dirait un acteur très célèbre, Max Verstappen. On le dira bien pour toi, Jean-Luc Roy, c'est promis. Merci à Julie Dereau pour cette production. C'est la troisième étape de la saison de Formule 1 ce week-end à Melbourne et troisième pole position décrochée tôt ce matin pour l'écurie autrichienne Red Bull, la deuxième pour Max Verstappen. Alors déjà deux grands prix intégralement disputés, deux victoires pour Red Bull, à chaque fois les deux premières places. Max Verstappen et Sergio Pérez sont tout en haut du classement, 44 et 43 points. L'écurie autrichienne déjà loin devant au classement constructeur, 87 points. Aston Martin et Mercedes, 38 points. La musique qui fout les jetons. Et cette question. L'écurie Red Bull a-t-elle déjà plié la saison? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Simon Dutin.
Non.
David Douillet.
Non.
Stephen Brun.
Oui.
J'ai deux oui, deux non avant de débattre. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, spécialiste Formule 1, Valentin Jamin. Salut Valentin. En tout cas, les adversaires de Red Bull sont déjà résignés.
Salut les GG, salut à tous. Oui, c'est vrai que les performances de Red Bull impressionnent et à raison, puisqu'avant l'Australie, c'est deux week-ends, deux pole positions et deux doublés aux premières places lors des courses. La dernière à Jeddah a marqué parce que Verstappen est remonté de la 15e à la 2e place. De quoi impressionner Lewis Hamilton. Je n'ai jamais vu une voiture aussi rapide. Je pense que lorsque nous étions rapides, nous ne l'étions pas à ce point, disait le Britannique. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais Max m'a dépassé avec une vitesse impressionnante. Je n'ai même pas pris la peine de défendre parce qu'il y avait une énorme différence. Fin de citation, une déclaration à chaud, pas optimiste et qu'il a plutôt maintenu Hamilton avant les qualifications de ce matin.
Very similar, to be honest. Made some changes.
C'est similaire aux deux premières courses. On a essayé des choses qui n'ont pas marché. Nous ne pourrons pas nous battre contre les Red Bull. Nous allons essayer de monter aussi haut que possible. Nous avons le rythme pour être autour de la 5e place, comme la dernière fois.
Réponse du patron de Red Bull, Christian Horner. C'est évidemment très flatteur, sourit-il, surtout si l'on considère certaines des voitures que Lewis a pilotées dans l'histoire récente. L'autre Britannique chez Mercedes, George Russell, était même allé plus loin, lui, après le premier Grand Prix à Bahreïn. Je parie qu'ils vont gagner toutes les courses cette saison, disait-il à propos de Red Bull, sauf incident évidemment, mais c'est vrai que Mercedes et Ferrari n'ont pas la voiture pour gagner. La meilleure des autres jusqu'ici, c'est l'Aston Martin et Alonso qui au mieux a fini à 15 secondes de la deuxième place. La Red Bull aurait même une seconde au tour en réserve, pense le directeur sportif d'Alpine Alan Perman, tandis que Toto Wolff, le patron de Mercedes, veut une voiture plus performante à l'avenir. Et si cette voiture ressemble à Red Bull, je cite, je m'en fiche, il faut juste qu'elle soit rapide. Le seul point faible, c'est peut-être l'entente entre les pilotes. Perez n'a pas toujours aimé l'attitude de son coéquipier néerlandais et les consignes en faveur de Verstappen données par l'équipe. Nous avons deux pilotes très matures qui travaillent bien ensemble. Ils ont bien travaillé ensemble auparavant, calme le boss Christian Horner.
Merci beaucoup Valentin Germain pour toutes ces précisions autour des adversaires quelque peu résignés de l'écurie Red Bull, ses adversaires. L'écurie Red Bull a-t-elle déjà plié la saison? C'est notre question, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je précise tout de même, et vous l'avez entendu avant cette séance de qualification, Lewis Hamilton, les Mercedes ont réalisé de magnifiques qualifications. Deuxième place pour George Russell, troisième place pour Lewis Hamilton, à quelques millièmes de Max Verstappen.
Oui,
pourquoi
que,
oui, ça a déjà
parce
plié
que, parce que Perez s'est planté en Q1 et donc il n'a pas pu terminer la séance d'essai. Mais malheureusement, je crois que ça ne fait plus beaucoup de doute. Deux doublés en deux courses dans le dernier avec un Verstappen qui s'élance de la 15e place et qui termine deuxième avec 15 secondes d'avance sur Alonso. C'est dire la supériorité quand même de la Red Bull et je ne vois vraiment pas qui pourrait leur contester cette supériorité parce qu'on nous dit qu'il y a des évolutions qui se font dans les écuries. Mais Red Bull aussi, de son côté, travaille et améliore sa voiture Grand Prix à Grand Prix. Malheureusement, la F1, c'est souvent comme ça. Les saisons comme celle d'il y a deux ans avec ce mano à mano incroyable, ce suspense jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix de la saison, la bagarre entre Hamilton et Verstappen, c'est plus du domaine de l'exception, de l'exceptionnel que de la normale. On est parti, j'en ai bien peur, pour une longue période de domination Red Bull, comme il y a eu la longue domination de Mercedes. Hein. 7 ans de suite, ou celle avant de Red Bull, déjà avec Vettel, 4 titres consécutifs, et un peu plus loin, celle de Ferrari, de ses 5 titres consécutifs de Schumacher. Il y a toujours eu dans l'histoire de la Formule 1 une écurie dominatrice qui écrase les débats. Et pour abattre ces dominations successives, la FIA et l'organisation des Grands Prix a à chaque fois essayé de changer le règlement. Le problème, c'est qu'on vient de changer de règlement. Donc, ça va pas se faire tout de suite. Après, la seule chose qui me dit que tout n'est pas plié, c'est peut-être la rivalité interne entre Verstappen et Perez. Rappelez-vous de cette bagarre il y a quelques années entre Rosberg et Hamilton. Évidemment, ils étaient largement au-dessus des autres, mais au moins ils s'étaient bagarrés entre eux. Il n'y avait pas eu d'ordre de premier et de deuxième pilote. J'espère qu'il en sera de même, mais là aujourd'hui, malheureusement, Perez qui se plante, qui va partir du fond de grille, ça va donner libre cours à Verstappen pour gagner un troisième Grand Prix. Pour Red Bull demain.
Ok, ce sera demain à partir de 7h du matin, heure française. On en parlera dans les GG à partir de 9h et on débriefera le Grand Prix d'Australie. Ce n'est pas plié, il n'est pas d'accord avec toi. Simon Dutin.
Non, il roule où Christophe, il donne même les contre-arguments, il me pique mes arguments,
il
justement.
Il est payé pour ça, pour faire la thèse et l'antithèse.
Non, il est évidemment bien meilleur que moi en Formule 1. Il vient de le rappeler, il y a eu toujours des dynasties, effectivement. On prend goût, effectivement, à ces saisons qui se terminent au bout du suspense, mais c'est rarissime. Moi, j'ai effectivement vu des choses encourageantes. Hier, les essais libres, Verstappen domine la première séance, mais c'est Alonso qui domine la deuxième. Il est à un dixième seulement du temps de Verstappen. Alonso est dans une nouvelle écurie qui, je sais pas, fait le troisième larron cette saison. Donc
il a terminé quatrième des qualifications.
Oui, effectivement, la question. J'ai évidemment envie d'y croire.
On m'a pas l'air convaincu.
Il y a 23 courses. Non, mais il y a 23 courses cette saison. Vous êtes marrant. Il faut faire les experts sur des domaines qui sont ultra techniques. Mercedes nous dit qu'ils attendent quasiment une nouvelle voiture avant le Grand Prix d'Imola. Ai-je lu ? Alors effectivement, Hamilton, il joue un petit peu les mecs dégoûtés, les mecs résignés. Mais bon, c'est un carnassier. Le mec, évidemment, qu'il a pas envie de se laisser cirer par les Red Bull toute la saison. Et puis effectivement, là où il y a un véritable espoir, je pense, Christophe l'a dit, et c'est pour ça qu'il me vole mes arguments, c'est que t'es pas à l'abri que Pérez, qui est juste à un point de Verstappen, ait les dents qui poussent et que évidemment, il y ait une grosse baston entre les deux. Tu connais le caractère de Verstappen, le Christian Horner qui ment comme il respire, qui est vraiment qui te sort des discours politiques, mais bon, évidemment, il y en a que pour Verstappen. Le Tcheco, là, ça va rapidement l'agacer s'il sent qu'il est compétitif. Et effectivement, quand c'est Mercedes qui dominait, Hamilton Rosberg, bon, on se régalait du duel entre deux pilotes de la même écurie. C'est comme Prost et Senna quand ils étaient chez McLaren.
Ok, donc il faut une baston à l'intérieur de l'écurie si on veut un petit peu de suspense.
Et là, tout le monde va avoir au moins 3 semaines pour bosser, parce qu'après Melbourne, le Grand Prix suivant, il est dans un mois. Donc tout le monde va retourner à l'atelier, va essayer de développer sa machine. Donc voilà, après, effectivement, il y a cette question du rythme en course qui est différent des qualifs. Et bon, effectivement, là, ça a l'air compliqué. On verra si Pérez fait la même remontée que Verstappen la semaine dernière. Effectivement, bon, ça voudra dire qu'ils sont difficiles à...
Que c'est un peu plié. Bon, ok, ouais. Il nous fait aussi de la thèse et l'antithèse. J'ai bien compris. Stephen Brun, bon, écoute, c'est plié.
Écoute, la Formule 1, c'est une banane. C'est une banane monumentale. Ils essayent de nous vendre des choses au début de saison, alors que les duels d'il y a 2 ans, et je prends Christophe pour témoin, si tu remontes 10, 15, 20, 30, 50 ans derrière, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, où ça se joue sur un dernier Grand Prix, les trucs. Il y a des airs, il y a des cycles comme ça.
Il y a eu les Ferrari, les Prost, Senna.
Voilà, mais aujourd'hui, c'est fini. Hein. Attention, je vais spoiler, les amis. Bouchez-vous les oreilles, mais Verstappen sera champion du monde et Red Bull sera champion du monde des constructeurs. Voilà, si ça peut vous éviter de sacrifier des siestes le dimanche sur votre canapé, voilà, si vous voulez du suspense, regardez la 52e saison de Walking Dead, ça sera plus sympa. Voilà, il y a
des. Ne critique pas cette série.
Non, mais il y a tellement d'écart. Je rappelle que l'année dernière, Verstappen. Sur les 3 premières courses, je crois qu'il fait 0 pointé sur 2 des 3 premières courses. Malgré ça, il gagne quand même 15 Grands Prix. Tout le monde, mais même avant que le championnat commence, les mecs, ils étaient en panique. Ils disaient, ah, la voiture Red Bull, elle fait paniquer. Et qu'ils lui mettent des avoinés à tout le monde. Donc oui, le suspense, mais le suspense, il est intramuros, en fait. Il est entre Red Bull, il est Pérez et Verstappen. Mais voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, 3 semaines. Ce qui est paradoxal, c'est que, à un moment donné, la F1, ils avaient voulu, en resserrant les écarts, mis des nouvelles règles d'aérodynamisme et tout ça pour resserrer les écarts. Bon, Red Bull, ils sont frisés les moustaches. Hein. L'ingénieur, il a dit, ah ouais, c'est ma spécialité, l'aérodynamisme. il a mis une volée à tout le monde. Donc voilà, ils nous vendent un truc. Drive to Survive, je sais pas comment ils vont faire. Ils vont nous monter des scénarios Alonso contre Alpine, la revanche d'Alonso. Il va falloir te trouver des trucs, parce qu'au niveau du suspense, c'est peanuts. Et j'ai envie de te dire par boring.
Ok, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, ennuyeux. On peut le traduire comme ça. Boring, on a bien compris, ou c'est habituel. Pour relancer le débat, et je vais donner la parole à David, il y a peut-être quand même une histoire dans l'histoire. C'est ce duel entre, j'aime pas ce terme, mais bon, l'âge avançant, les deux vétérans, Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Et justement, Fernando Alonso, l'Espagnol, qui réalise un très bon début de saison, vous l'avez dit, a donné une interview à l'équipe où il a répondu à Lewis Hamilton, qui se plaignait en tout cas de l'avance prise par Red Bull. Il a la mémoire courte, il vieillit, a dit Alonso. Pour gagner des titres, il faut des voitures dominatrices comme Lewis les a eues. Fin de citation. David Douillet, c'est pas plié.
Non, enfin, moi je vais apporter un autre élément au débat que j'ai remarqué quand j'ai regardé les Grands Prix. Je trouve, enfin c'est mon avis, puis je l'ai lu aussi, que les voitures sont extrêmement efficaces, vous avez tous raison. Si ça continue comme ça, ça va être très compliqué. Mais elles sont fragiles. Je trouve qu'elles sont fragiles. Effectivement, l'aérodynamisme, ils l'ont poussé à un tel niveau que ça fait exercer sur les parties mécaniques de motricité des forces incroyables. La preuve, puisque Verstappen a chaud aux fesses sur 2 grands prix, puisque la transmission elle est compliquée à la fin de son grand prix. Je crois même qu'il a dû casser un un arbre de roue, je crois, et ils ont des problèmes de boîte de vitesse. Bon, alors, ok, ça se règle, ils vont le régler, etc., etc. Mais ce sont des voitures qui, apparemment, sont poussées tellement au bout du bout du bout que, pour des raisons, parce qu'ils sont obligés de respecter les poids, etc., etc., eh bien, c'est pas encore gagné d'avance, parce que si ces points faibles se révèlent et sont pas totalement réglés, les autres qui ont peut-être une aérodynamique moins pointue, sollicitent moins les parties mécaniques, vont peut-être prendre à un moment donné le, enfin bon, voilà, c'est une hypothèse. Pour ça que je dis que attendons, c'est un peu prématuré après deux grands prix. On sait jamais parce que. Elles vont vite, mais elles sont fragiles. Voilà.
Ok, on ne sait jamais. Je vous sens quand même pas hyper confiant là tous dans le studio RMC. On va pas se le cacher. Je voudrais vous parler des Français hein, chez Alpine, Ocon et Gasly dans quelques instants et vous parler de leur qualification. Mais juste encore une question sur ce débat. Voir déjà afficher publiquement les commentaires des adversaires de Red Bull en disant. Oh, j'aimerais bien avoir une voiture aussi rapide. Oh, ils sont trop forts. Nous, on se bat pour la cinquième place. Mot de Lewis Hamilton. Vous l'avez entendu il y a quelques instants. Est-ce que ça déjà, ça doit nous alerter et nous dire ok c'est plombé ou c'est juste de la communication en disant.
Mais est-ce que c'est pas de la pression qu'il met à son propre
développeur bien sûr.
Voilà en disant écoutez bon on peut rester comme ça mais bon la saison elle va être
c'est
longue.
C'est un coup de pression aux ingénieurs.
Je pense, je vois comme ça ou alors c'est un mec qui pleurniche et qui est envieux de ces années Mercedes où sa voiture roulait sur tout le monde ou alors c'est tout simplement un constat.
Froid, lucide. Ok, c'est un constat froid, lucide, c'est aussi votre.
Bah, ça doit être un peu désespérant quand tu te bagarres et que tu espères avant le début de la saison que ta voiture sera aussi performante que les autres, même si tu en doutes et que tu vois effectivement la réalité sur le terrain dès les premiers qualifs du premier Grand Prix, ça fait mal et je vois pas. Je pense pas qu'ils jouent le bluff. Hein. Ils sont vraiment désespérés.
Et tout ça pour faire remettre en perspective certaines choses. Je trouve que c'est la Formule 1 et le sport mécanique en général très compliqué de juger si c'est un mec qui est vraiment un champion ou pas. Tu vois les qualités de pilote, Lewis Hamilton qu'on disait pilote exceptionnel lorsqu'il dominait la Formule 1, mais au final tu t'aperçois que quand il est dans une autre écurie, est-ce que c'est toujours un pilote fantastique ou finalement il avait la meilleure voiture? Je trouve qu'aujourd'hui c'est très compliqué de juger ce sport-là. Est-ce que les mecs sont des bons pilotes ou ils sont ultra dépendants de la voiture?
À peu près sur le top 8, ce sont tous des pilotes extraordinaires. Oui, voilà. Et si on leur filait la meilleure voiture,
mais c'est vrai que c'est difficile de savoir qui est le plus grand pilote. On aimerait bien les avoir tous avec la même voiture.
Je suis pas assez pointu pour être capable de juger les trajectoires qu'ils prennent. C'est un sport compliqué pour moi.
Alors vous parlez des Français maintenant chez Alpine avec la 9e place de Pierre Gasly lors des qualifications tôt ce matin, la 11e place pour Esteban Ocon. Et voici ce qu'a dit Pierre Gasly après la rencontre. C'est dommage, c'est ennuyeux que l'on ne soit pas dans le top 8. La performance de nos Français, là, depuis le début de la saison et lors de ces qualifications, c'est quoi votre regard? Qui veut se lancer sur les Français?
C'est moyennasse. C'est moyennasse, Alpine, qu'on attendait faire un rapproché sur les trois gros constructeurs que sont Ferrari, Mercedes et Red Bull. C'était les ambitions de Laurent Rossi de combler ce gap-là. Il se retrouve cinquième constructeur pour le moment, parce que Aston Martin est passé devant. Donc je pense qu'il y a des doutes, il y a de la déception. Là, les trois semaines que Simon a dit de break entre le troisième Grand Prix et le quatrième Grand Prix, ils ont intérêt à accélérer, parce que là, ils ont rétrogradé, en fait, Alpine.
En tout cas, ils sont dans leur... À leur niveau, j'ai envie de dire, si on prend le début de la saison, au classement, ils sont 10e et 11e, et là, ils seront 9e et 11e sur la grille de départ demain pour le Grand Prix de Melbourne. Et évidemment, on reparlera de nos Français dans cette émission. 10h. Enfin, oui, vas-y, pardon, David.
Il y a un truc qui me chiffonne, parce que personne ne dit que les Aston Martin sont quasiment des copies conformes des Red Bull. Enfin, je crois que tout le monde le sait.
C'est pas, oui, parce que Aston Martin a drafté plusieurs mecs de l'écurie Red Bull
ils ont quasiment la même bagnole, ils sont partis
avec quelques bouquins sous le coude.
Ouais, un peu, ouais, beaucoup même. Oui. Donc je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu faussé tout ça, cette affaire-là, parce que bon, on sait, apparemment les bruits de paddock disent que voilà, Aston c'est les cousines des Red Bull, et puis tout le monde s'entend bien avec ça. Voilà, nous, Alpine, c'est français, on développe la marque indépendamment les uns des autres et on n'a pas encore trouvé la meilleure solution, mais ça, moi, je trouve que ça progresse, en tout cas.
Ok, bon, on vérifiera ça dès demain. C'est à partir de 7h du matin, donc, ce Grand Prix que vous allez pouvoir suivre dans la matinale, le débrief à partir de 9h dans les grandes gueules du sport. 10h26, on revient dans quelques instants. L'homme heureux autour d'Hervé Renard avec Pierre Amiche dans quelques instants. Ça va être savoureux, comme d'habitude. À tout de suite sur RMC. Dans 20 minutes, le débat caché, hein, n'oubliez pas.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les grandes gueules, votre émission tous les samedis et dimanches de 9h à midi avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Simon Dutin, Stephen Brun. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Le fameux débat caché, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir batailler sur un magnifique sujet, je vous le promets, chers auditeurs. Mais tout de suite, comme tous les samedis et dimanches à 10h30, on fait entrer Pierre Amiche.
RMC.
Quand je suis content, je vomis. Là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content. Content, content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi heureux aujourd'hui?
Eh ben aujourd'hui je suis un homme heureux parce qu'hier je vous cache pas que j'ai eu un petit coup de mou, j'en venais tout juste de vacances, j'ai clairement pas envie de bosser. Hein. Je traînais la patte, on aurait dit JC un lundi. Et là, vendredi midi, il est arrivé. Mon petit rayon de soleil. Mon loukoum savoyard. Présentation officielle et tout le tintouin pour Hervé fucking Renard. Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Le nouveau taulier, le néo-patron. Oh, Hervé. Midi 20, il arrive dans la salle. Et on sent que tout le monde est un petit peu excité. Je sais pas, il y a un truc, il est magnétique. Il a même pas parlé, j'ai super envie de me passer la main dans les cheveux. 12h23, Philippe Diallo prend la parole. Et rapidement, le président de la 3F par intérim explique pourquoi c'est Hervé Renard, le Chippendale d'Aix-les-Bains, qui a été choisi.
Il fallait qu'il soit charismatique pour pouvoir incarner notre sélection nationale. Ce nom s'est imposé, c'est celui d'Hervé Renard. Il a ce charisme, ce leadership dont nous pensons qu'il est nécessaire pour notre équipe nationale pour lui faire gravir une marche supplémentaire.
Oh oui, Hervé, fais-moi gravir avec du football plaisir et avec ton gros charisme. 12h26, Hervé Renard prend la parole. Les premiers mots sont choisis. Attention, on n'a pas retouché le rythme, c'est comme ça qu'il cause pour de vrai.
Merci, Président. C'est pour moi une immense fierté d'être assis à cette tribune devant vous. L'équipe de France, dans cette maison aussi prestigieuse, représente quelque chose d'important.
J'arrive pas à me concentrer. Arrête Hervé, j'aime bien.
Bah, j'ai dit qu'on n'avait pas retouché le rythme, j'ai pas dit qu'on avait rien retouché.
Alors, en tant que playboy moi-même, je sais que c'est lourd de parler du physique constamment. Mais il est beau. Non, sans déconner, il est pas canon, c'est fou. Dès que je le vois, j'ai envie d'aller bivouaquer dans les dunes du Niger avec une chemise en coton. Ah, c'est sûr que c'est pas Louis Van Gaal. Hein. Lui, il me donne juste envie de reprendre deux fois de la fondue ou d'adopter un pélican. D'ailleurs, anecdote de fou sur Renard, pas sur les pélicans, faut suivre un petit peu. Sur TikTok, pendant la Coupe du Monde, il y a eu des centaines et des centaines de vidéos d'Hervé Renard en chemise souriant sur du Lana Del Rey avec un hashtag FILF, l'équivalent masculin de MILF, que je traduirai par le papa avec qui on a envie de faire du sexe. Mais attention. Attention, le sélectionneur le plus sexy de l'histoire des sélectionneurs, c'est pas qu'un physique, c'est aussi un cerveau. 12h34, quand on lui pose la question pot de banane, et sinon, vous, le putsch des filles, les joueuses, plutôt oui, plutôt... On sent que le mec a été formé par les forces spéciales.
J'ai estimé que la fédération me donnait le feu vert pour sélectionner qui je voulais dans cette liste de présélectionnés. Ce qui s'est passé avant, ça me regarde pas. Moi, je me focalise sur le présent et sur le futur.
Comme il est malin, il est rusé comme... Mais comme un renard, en fait, c'est fou, c'est bien fait. Hein. Hervé Renard, moitié Jamie Lannister, moitié Mike Horn, capable de jouer au foot partout où il y a un ballon, même quand il n'y a pas de pelouse. Du moment qu'il peut faire péter une chemise alter eco coton recyclé, y a match. Renard, l'aventurier qui défie les lois de la morale et de la logique. Il est capable en moins d'un an de prendre de l'oseille aux Saoudiens, puis de signer pour l'équipe de France féminine en divisant son salaire par 3, 5, 10. Capable de faire le tour de France-Afrique sans jamais passer pour SS-117. Capable de gagner sans jamais se la raconter. Il donne l'impression d'être partout chez lui, partout à l'aise. Il est nommé par un président fédé intérimaire inconnu et Jean-Michel Aulas pour succéder à une sélectionneuse décapitée par ses propres joueuses. Et il est bien, il est à sa place, tout glisse, tout est naturel. Bon, il y a quand même un truc qui me trouble parce que je le connais pas personnellement. Mais je me pose vraiment la question. Est-ce qu'il joue la comédie ou est-ce qu'il est sincère? Est-ce que ces gueulantes, elles sont pour ses joueurs ou pour les caméras en gros? Est-ce que c'est toc ou est-ce que c'est vrai? Alors Hervé, si tu m'écoutes, si tu veux casser cette image un peu nulle, un peu facile, si tu veux rompre avec les clichés ridicules du beau gosse, si t'en as marre d'être comparé sans cesse à des vieux beaux par des crétins comme moi, si tu veux prouver que t'es un bon entraîneur avant d'être un bel entraîneur, si t'en as marre d'être un homme objet, on peut en discuter. Le plus simple, viens dormir à la maison. Plus sérieusement, le football féminin cherche une nouvelle légitimité aux yeux du public français. Ça tombe bien.
Hervé Renard aussi.
Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme.
Le coming out de Pierre Amiche.
Heureux, très heureux de voir l'arrivée d'Hervé Renard, le retour d'Hervé Renard en France. C'est à vous de trancher autour de cette question, mes GG. Est-ce que ça vous donne encore plus envie, tout simplement, de regarder du foot féminin, cette équipe de France de foot, l'arrivée d'Hervé Renard, oui ou non? Stéphane Brun.
Oui, pourquoi pas.
Christophe Cessieux.
Ouais.
Simon Dutin.
Ouais. Comme Christophe. Oui,
convaincu.
Oui,
ok. Oui. David Douillet.
Faut que je dise non, c'est ça?
Bah non, t'es pas obligé. Tu dis ce que tu veux.
Bah ouais, moi je suis plutôt positif sur cette affaire-là.
Plutôt positif. Simon, je sentais une petite hésitation, non?
Oui, parce que moi, contrairement à David Douillet, je ne considère pas encore que le foot féminin est au sommet du sport mondial.
C'est l'avenir vraiment, du sport mondial. Oui,
c'est voilà, oui, c'est la quintessence du sport actuel.
Absolument.
Je pense que et là, tout le crédit en revient à Philippe Diallo, hein, président intérimaire. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que j'espère que Philippe Diallo deviendra le président titulaire de la Fédération française de football, parce que je considère que c'est ce qui est arrivé de mieux au football en général ces derniers mois. Cela étant dit, il a effectivement insisté sur le charisme et le leadership de notre nouveau sélectionneur d'équipe de France féminine, et effectivement je pense que l'accent a été mis là-dessus, au-delà des compétences dans la recherche du nouveau sélectionneur, parce que effectivement il y a eu ce putsch des joueuses, il faut de l'autorité, et il faut effectivement donner envie aux gens. Il a eu l'élégance, je trouve, de rappeler que Corinne Diacre avait eu de très bons résultats aussi quand même à la tête de l'équipe de France. Bon, on peut quand même admettre que au niveau du charisme, Corinne Diacre, c'était un ton ou deux en dessous de Hervé Renard. Bah voilà, chacun se fera juge de ça. Donc effectivement, il y a ces côtés un peu faciles qui doivent évidemment l'agacer, notre ami Hervé, là, le côté beau gosse, la chemise, les gueulantes, machin. Mais je pense que ça peut faire du bien à un secteur du football, enfin je veux dire le foot féminin, on n'en parle qu'à travers les affaires et pas à travers les victoires depuis certains mois. Et même si il doit y avoir un effet de loupe sur les sélectionneurs et exagérer peut-être un petit peu le rôle du sélectionneur par rapport à la place qu'il doit occuper médiatiquement, c'est pas pénal. Mais c'est ce que voulait la Fédé, et le coup il est déjà réussi. Il voulait un mec qui prenne la lumière, un mec avec du charisme. Voilà, c'est fait, parce qu'on fait les débats, on analyse sa conférence de presse qui a été très bonne. Alors oui, moi ça va me faire regarder du foot féminin parce que j'ai envie de voir ce que Hervé Renard est capable de proposer, mais par contre moi je l'attends au tournant. Alors certes c'est une mission commando, parce qu'en 3 mois il y a la Coupe du Monde, mais faut pas me dire que parce qu'il est arrivé que maintenant, que la Coupe du Monde, bon, c'est pas l'équipe de France, il y a quand même des joueuses qui jouent dans les plus grands clubs en Europe, à Lyon, Paris Saint-Germain, qui ont gagné la Ligue des Champions plusieurs fois, c'est objectif demi-finale, la Coupe du Monde.
Il l'a dit.
Demi-finale et jeu, c'est la même chose, dernier carré, les deux compétitions. Faut pas commencer à me dire, oui mais attention, il est arrivé en retard, c'était un panier de crabes et compagnie.
Lui il pourra toujours sortir le parachute.
Nous on va pas le sortir, on va le dégonfler le parachute, je te le dis.
Ok. En tout cas, tu parlais des codes, il a cassé les codes de cette image du beau gosse hier. Il n'avait pas mis sa célèbre chemise blanche, voilà.
Non, déjà c'est bleu.
C'était une chemise sombre, exactement. Et puis, je vais vous donner la parole, David et Christophe. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a, non pas bouleversé, mais où j'ai senti mes habitudes changer. C'est que hier, à midi 20, j'étais scotché devant mon ordinateur pour regarder la conférence de presse en direct d'Hervé Renard. Chose qui ne m'arrivait jamais. J'avais envie d'avoir ses premiers mots. J'avais envie d'avoir quelque chose. Donc c'est peut-être aussi le signe que quelque chose change.
C'est l'attrait de la nouveauté.
C'est mon métier.
Je pense que le jour où Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France, tu seras aussi devant ton écran, alors que tu regardes plus forcément les confs de Didier.
Ah si, je les regarde. Je les regarde, les confs de Didier, mais
tu les écoutes pas.
Ah non, je fais autre chose. Je mets de la musique.
Non. Non, mais c'est l'attrait de la nouveauté. C'est sûr que, en plus, ce garçon, quand même, on a tous en mémoire ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde, cette victoire face à l'Arabie Saoudite. C'est un vrai personnage charismatique, mais effectivement, il n'a pas trop le droit de se planter. Il n'a pas trop le droit de se planter parce que l'équipe de France, le foot féminin français a un bon niveau, mais que ce bon niveau a été terni par les affaires depuis trop longtemps et qu'on a envie. Rappelez-vous de cette Coupe du Monde en 2019. En France, les audiences étaient au top. Tout le monde s'était pris d'amour et d'amitié pour cette équipe de France. Et elles ont gâché le truc. Elles ont gâché le truc avec ces histoires à répétition. Donc, on a envie d'y croire à nouveau. Mais il y a du boulot quand même. Il y a du boulot.
Ok, David Douillet.
Moi, je trouve ça dangereux. C'est un beau gosse. Il s'appelle Renard. Et il va diriger une équipe féminine.
Tu veux dire que le renard est dans le poulailler,
les amis. C'est extrêmement dangereux. Non, je plaisante.
J'étais en train de voir s'il y avait de l'ironie du 8e degré ou pas. Vas-y, mon cher David.
Non, mais c'était pour Christophe, pour qu'il retrouve son second degré. J'essaye de démarrer très bas.
Tu vois, ça, c'est de l'humour d'ex-RPR, Christophe.
Voilà, exactement.
Oui, mais il a toujours le.
Et de quinca. Merci. Non, mais il ne faut pas oublier que. Enfin, moi, je trouve que vous occultez le fait que ce soit. Je trouve, c'est mon avis, un bon technicien. Voilà. Un garçon qui a gagné deux fois la CAN. Ok, ça s'est pas super bien passé dans les clubs de français, mais en tous les cas, il a quand même prouvé des choses. Et je trouve que la maturité de l'équipe féminine aujourd'hui a besoin, pour continuer à grandir, d'un entraîneur de cette trempe-là. C'est mon avis. Voilà. Je pense que on est à un carrefour où il faut cranter au-dessus au niveau du management de cette équipe de France féminine. Et je pense que c'est un excellent choix. Au-delà des aspects marketing et autres divers et variés.
Il y a deux matchs qui arrivent très vite pour cette équipe de France féminine et forcément nous allons suivre ça sur RMC. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr et demain vous retrouverez Pierre Amiche pour, il sait pas encore, à mon avis il sera en colère. Le dimanche souvent il est un petit peu, on est dimanche donc forcément il travaille. Il est un petit peu chafouin. 10h41, on se retrouve dans quelques instants pour un événement magnifique, celui que vous attendez tous ce matin, le fameux débat caché.
On attend tous.
Non, qu'est-ce qu'il y a, Stéphane ?
Non,
si. Pas particulièrement ?
Non, pas particulièrement.
Pas plus qu'un autre débat ?
Moi, j'aime bien.
Le débat caché, c'est votre surprise, votre grande surprise, les GG. Restez bien avec nous, c'est dans quelques instants. A tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h43, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Restez bien avec nous, à partir de 11h, il y aura le fameux bras de fer autour de Lionel Messi. Messi fait-il encore rêver ? Ce sera notre question. J'ai deux oui, deux non, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de l'émission. Mais tout de suite, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir tout vous dire. Pour la première fois à la radio française, le débat caché. Un piège pour vous les GG. Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Les grandes gueules du sport se retrouvent comme Gilbert Montagnier et un saumon sauvage. Totalement à l'aveugle et sans filet. Le guet-apens du jour, c'est ça.
La collade entre Christophe Laporte et Wout Van Aert, les deux hommes du jour qui nous auront refait le coup de l'an passé sur le Grand Prix E3. C'était pour Wout Van Aert l'an passé. Est-ce que ce sera pour le Belge ou est-ce que ce sera pour Christophe Laporte? Ce sera pour Christophe Laporte, premier Français à s'imposer depuis Philippe Gaumont sur Gant Wevelgem en 1997.
C'est une image qui a beaucoup fait parler, celle de Christophe Laporte et Wout Van Aert, main dans la main, à l'arrivée de Gant Wevelgem dimanche dernier. Le Belge laissant gagner le Français, le leader de la Jumbo-Visma, récompensant son coéquipier, Wout Van Aert.
C'est fou, c'est aussi pour nous difficile de croire que c'est vrai. C'est un bon ami de moi, on a fait le Tour de France l'année passée ensemble qui était vraiment spécial pour nous deux. C'est une victoire de nous deux, mais c'était le moment pour Christophe de croiser la ligne et d'arriver en première place.
Une image insolite mais loin d'être inédite. Les deux coureurs qui s'étaient déjà mis d'accord il y a un an sur l'E3. Cette fois-ci, c'était Christophe Laporte qui avait laissé la victoire à Wout Van Aert. Mensen met à 3 lors de la première étape de Paris-Nice 2022. Christophe Laporte, Primoz Roglic, Wout Van Aert réalisent un incroyable triplé, main dans la main, en laissant là encore la victoire aux Français. Notre débat, ces victoires ont-elles de la valeur ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Bien sûr que oui.
Bien sûr que oui. Simon Dutin.
Oui.
Stephen Brun.
Oui.
David Douillet.
Quand on a fait du vélo, oui. On sait ce que c'est, oui.
Il est dégoûté de rouer. Allez, tu remballes ton débat. T'aurais dû inviter Denis Charvet qui lui a perdu beaucoup dans l'histoire et qui était dégoûté.
Je vais reprendre une expression de Vincent Moscato. Il y a beaucoup de flamireilles autour de cette table. C'est victoire.
C'est surtout parce que t'es jamais monté sur un vélo, mon beau.
Moi,
c'est sûr qu'en jouant au golf toute la journée, tu risques pas d'avoir.
Détrompe-toi, je te raconterai mon histoire personnelle avec le cycliste.
Exactement. Je peux parler contre mes convictions, vu que le débat, je l'ai fait 14 fois cette semaine dans Moscato Show et 14 fois, j'ai dit que c'était mérité la victoire de Laporte et que c'était une vraie victoire. Donc je ne veux pas te dire non, juste pour te faire plaisir.
Bah vas-y, tu prends la main. Vas-y, essaye de convaincre tout le monde. Essaye de me convaincre surtout.
Bah, ou alors t'écouteras les podcasts, ils sont convaincants aussi. Mais non. Alors déjà, c'est une victoire d'équipe déjà, et que Wout Van Aert, qui a la réputation d'être un gentleman dans le milieu du cyclisme, c'est acheté, j'aime pas le terme, c'est acheté, mais c'est mis Christophe Laporte en tant que coéquipier dans sa poche pour le restant de la saison, puisque Wout Van Aert,
et notamment pour la course
voilà,
de demain.
Et Wout Van Aert reste malgré tout le leader de cette équipe-là. Et elle est méritée, la victoire de Laporte. Pourquoi? Bah parce que Laporte a été le seul sur cette course-là à pouvoir suivre Wout Van Aert. Ils ont tous pété en vol. Ça veut dire que Laporte, il était au niveau de Wout Van Aert. C'est pas comme si Van Aert avait attendu Laporte qui recolle avec lui et lui file la victoire. Laporte, il a fait la maille avec Wout Van Aert. Et puis voilà, et puis dans le sport ça existe, et puis ça fait du bien aussi de voir des images comme ça dans le sport actuel, plutôt que chacun pour soi et l'égoïsme à tout prix. Donc je pense qu'il faut souligner ça. Et Christophe Laporte, je peux vous dire que dans 15 ans il aura gagné Grand Vevel Game et il n'y aura pas d'astérisque en disant Wout Van Aert m'a laissé la victoire.
Il n'y aura pas, mais pour lui, est-ce que ce sont de vraies victoires? Est-ce qu'il va considérer
qui te dit qu'il n'aurait pas gagné à la régulière?
Bah justement, montrez-nous qui est le plus fort sur la contact.
Qui te dit que si en se battant, en sprintant, ils se foutent pas en l'air les deux?
Moi, je sépare deux courses. Paris-Nice, c'est une course à étapes. Ok, je veux bien. Grand Vevel Game, ça reste une classique.
Non, parce que dans le cadre de la ce que les Flamands appellent la semaine sainte, c'est un des épisodes. En fait, c'est comme une course par étape. C'est toutes ces courses qui s'enchaînent. Parce que derrière, trois jours après, Christophe Laporte est allé gagner une nouvelle étape à travers la Flandre.
Exactement.
C'était mercredi. Donc en fait, tu gagnes une course, tu en perds une, mais l'objectif principal, c'est dimanche, c'est demain. La vraie course qui compte pour tout le monde, et notamment pour Van Aert, c'est demain, c'est le Tour des Flandres, le Ronde van Vlaanderen, c'est le nec plus ultra pour tous les coureurs cyclistes et notamment pour les coureurs belges. Et Van Aert, eh bien, s'est acheté encore un peu plus, même si évidemment le mot est un peu fort, mais il s'est mis la porte dans son camp définitivement. Demain, la porte, il va tout faire, il va se dépouiller pour que son leader puisse gagner le Tour des Flandres.
Ok, très bien. Ça, j'entends comme argument. Mais même si vous ne prenez pas en compte mes arguments à moi, pleutre journaliste, Eddy Merckx. Les gens de Belge, ça vous parle, non?
Oui. D'ailleurs, le cannibale, il ne lâchait rien et ce sera le thème de mon.
C'était mieux avant demain.
Tu verras comment il a fini justement dans un Tour de France, justement à force de ne rien laisser aux autres.
Voilà,
il a pris des coups de poing dans le foie, le pauvre.
Tu te calmes.
Bah non, mais je te calme. Je vais te le faire. Bon, c'était mieux avant tout.
Mets-lui des coups de poing dans le foie.
C'est son choix de laisser gagner un coéquipier, mais je ne l'aurais pas fait. Il aurait pu entrer dans l'histoire en gagnant le 3, Grand Vevel Game et le Tour des Flandres. Tom Boonen également. Je comprends, j'ai aussi aidé des coéquipiers à gagner, mais jamais dans une telle situation. C'était bon pour le marketing de l'équipe, mais je ne sais pas si je l'aurais fait.
Oui, mais c'est des gens qui ont gagné beaucoup en solitaire, souvent effectivement
sans l'aide de
personne. Eux, ils ont fait du vélo.
Ce sont des Belges qui parlent d'un coureur français qui a gagné à la place d'un de leurs compatriotes.
Donc Belge.
Voilà. Non mais et va leur dire aux mecs, ils arrivent à deux à 500 mètres de la ligne, va leur dire qu'ils n'ont pas gagné, que celui qui va finir, tu vois, premier, ils ont le droit. Enfin, je veux dire, c'est quand même, ils ont mérité le droit effectivement de s'octroyer ce luxe après une course.
Et le public qui est là,
il a gagné cette semaine. Il a gagné tout seul à travers la Flandre cette semaine. On les a pas entendus, les Merckx, les Boonen, nous dire ouais attends machin. La Jumbo, ils ont justement fait, pour moi, réaliser un fantasme d'amoureux de cyclisme. C'est de, je sais pas, ressusciter la course vraiment par équipe. L'an dernier dans le Granon, ils ont fait exploser la course dans le Tour de France. Ils ont fait dévisser Pogacar. Ils ont fait ce que on rêvait de voir. Alors les mecs, effectivement, ils sont tellement puissants, ils sont tellement forts que bon, parfois ils arrivent à deux et ils se font des politesses, mais il faut y arriver encore.
Vous me parlez de la belle image, très bien la belle image, mais le public qui est massé sur l'arrivée, qui a envie de voir un duel, qui a envie de voir un sprint.
Mais si tu me demandes mon avis, j'y sais effectivement. Moi, j'aurais préféré que ça sprint et même que ça demi-sprint.
Tu peux pas. T'as une semaine de victoire.
Effectivement, Christophe le rappelait, il y a des échéances toute la saison et effectivement, Van Aert il vise peut-être quand même un tout petit peu au-dessus que Laporte cette saison, et peut-être qu'il y a un petit peu de calcul, effectivement. Hein, Laporte à ton service est dévoué corps et âme. Bah, c'est un bon investissement pour la suite de la saison.
J'essaie, je vais être très honnête avec toi. Il y a une vanne là qui arrive. Ça fait 14 fois que tu regardes le chrono, il reste 4 minutes, le débat il est mort.
Non,
tu trouves autre chose.
Non. J'ai aucun problème à relancer ce débat, et je vous dirai dans quelques instants. Juste David Douillet, et ensuite Christophe, tu pourras reprendre la main. David.
Non mais ça n'arrive pas tous les week-ends, c'est ça que je veux te dire, Jean-Christophe. C'est que c'est de temps en temps, et je peux te dire que le public, quand il voit ce genre d'image, ça fait du bien. On est dans l'hyper-compétition, de voir deux types qui se respectent parce qu'ils souffrent ensemble et ils s'entraident ensemble. C'est la marque propre du cyclisme quand même. T'as pas un vainqueur du Tour de France, pour être encore plus clair, qui peut gagner tout seul. Si son équipe est pas là, il n'existe pas, le garçon. Quelles que soient ses qualités, tout le monde le sait. Donc de voir de temps en temps des gars qui arrivent main dans la main et qui passent, qui laissent l'autre, son coéquipier, passer devant et être grand seigneur, ouais, ça fait du bien, ça rassure. Même si, je suis pas dupe, je suis d'accord avec vous, c'est un taulier, un bon manager qui s'attache toute la fidélité de son collaborateur. C'est très bien, mais ça fait du bien.
Voilà. Ok, ça fait du bien.
Et je suis sûr qu'on se souviendra plus de cette image et de cette édition 2023 de Grand Wevelgem que des précédentes. On a tous encore, enfin, pour ceux qui sont passionnés de vélo, l'image de Bernard Hinault et Greg LeMond terminant main dans la main au sommet à l'Alpe d'Huez. C'était en 86, ils étaient équipiers déjà. Il y avait quand même, ils étaient équipiers mais rivaux pour la victoire dans le Tour de France. Mais cette image, on l'a, enfin, pour ceux qui,
c'est partie
des images iconiques du sport. Et les gens ce jour-là à l'Alpe d'Huez étaient ravis de voir les deux rivaux coéquipiers terminer main dans la main.
À l'époque actuelle, t'as pas envie de voir un peu de fraternité, d'amour, de
la machin, fraternité
plutôt que des mecs qui se mettent sur la truffe en permanence. Ça fait pas du bien de temps en temps des images comme ça.
Oui, je sais, les miaou sont de sortie, il y a aucun problème.
C'était aux Jeux Olympiques en son hauteur là, le Qatari avec l'Italien où ils se partagent la médaille d'or. Ça, t'étais contre ça aussi.
Alors, je vais vous conter une histoire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Les Britanniques, Jess et Georgia, ont été disqualifiés de l'épreuve pré-olympique de Tokyo pour avoir franchi la ligne d'arrivée ensemble, main dans la main. Les organisateurs ont estimé qu'elles avaient enfreint une règle stipulant que les athlètes qui terminent sur une situation d'égalité artificielle où aucun effort n'a été fait pour se distinguer seront disqualifiés.
Ah ben là, il n'y a pas égalité, puisque la porte est passée la ligne avant.
Ouais, pas d'égalité.
Oui, enfin, vous avez bien compris. Non, une égalité artificielle.
Après, tu peux éventuellement
réfléchir à insérer une, je sais pas, dans le règlement, une obligation
de compétition. C'est du triathlon. Elles sont arrivées en égalité, mais on peut les départager à la photo finish. Il n'y a pas eu de sprint final. C'est ce que je veux vous dire.
Oui, mais argument,
ce texte, ça vous dit rien, non?
On pourrait insérer dans le règlement une obligation de compétition, même entre coéquipiers jusqu'à la fin. Mais de toute façon, même si ça existait,
il la détournerait.
Exactement. Il ferait semblant de sprinter et semblant de se faire battre au sprint par son copain. Bon, tu sais, c'est insolvable.
Laissons les mecs décider.
Mais oui.
Laissons les mecs décider.
Ils ont gagné le droit de décider, exactement.
C'est insolvable ou insoluble?
Non, mais
insoluble. C'est insoluble. Merci.
Il n'y a pas de notion d'équipe dans le triathlon.
Faire zapping, on sache.
Il n'y a pas de notion d'équipe en triathlon, tu as raison, David. Là, ce sont deux équipiers.
Il n'y a pas de notion
d'équipe
dans le triathlon.
Bah oui, mais donc si. Là, mais il y a une notion de nation. C'était les Britanniques qui allaient se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et on leur dit non, si ça se passe comme ça, vous n'êtes pas qualifiés. Et elles ont dû repasser d'autres échéances pour se qualifier.
Oui, mais il n'y a pas. Ce que je veux dire, c'est que. Entre elles, enfin, je crois pas, je les ai pas vues, enfin, concourir, mais il y a pas cette notion d'entraide et d'appui comme dans une équipe.
Elles sont de la même nation, elles arrivent toutes les deux devant pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y a quand même de l'entraide, on l'imagine.
Tu sais que mon son, il est pas coupé, j'entends bien ce que tu me dis.
Oui,
il y a pas de problème.
Mais si ça se trouve, il y avait qu'une seule qualifiée et ils savaient pas qui qualifiait.
Non, mais ils sont pas dans la même équipe. Tu vois, ils s'entraident pas pendant la course. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Tandis que là, c'est le cas.
Mais moi, je suis en train de te dire que oui, peut-être qu'ils s'entraident. En vélo, vu qu'elles font du vélo, c'est du triathlon. Peut-être qu'elles s'entraident aussi, tu vois. Elles sont roue dans roue, donc si, il y a aussi
de l'entraide. Oui, bah alors, à la limite, elles pourraient s'entraider pendant l'épreuve de vélo, mais je peux te dire que quand tu nages, accroche-toi, et quand tu cours, accroche-toi aussi. Enfin, c'est compliqué. Je trouve, enfin, je suis persuadé qu'il n'y a pas d'entraide pendant la course.
Parce que je crois qu'au triathlon, t'as une règle où t'as pas le droit de courir ensemble.
J'y sais, toi, qui, je sais, est fan amoureux. Je vais donner une image par rapport à ton sport préféré, par rapport au foot, évidemment. Quand Messi donne le ballon à Mbappé alors qu'il est en position de marquer, il lui fait une passe décisive. Alors qu'il aurait pu marquer, ça te dérange toi quelque part? C'est pareil, c'est un travail d'équipe.
Non, c'est pas pareil là.
Ah, c'est pas pareil.
Bah non, je trouve que c'est pas du tout. Non, mais là pour le coup, je trouve que c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu dois marquer un but, il peut décider tout seul ou il peut la donner à son coéquipier, mais c'est différent.
C'est la victoire d'une équipe.
Oui, je suis pas.
On est dans une notion d'équipe.
Très bien. En tout cas, j'ai bien vu que j'avais bien ramené pendant 2 minutes sur ce débat. Il y a aucun problème. Vous êtes tous d'accord. C'est pas grave. La semaine prochaine, on retrouvera un magnifique. Oui, du golf, parce qu'il y aura le Masters d'Augusta.
Tiens, ça fait longtemps qu'on a
Il y aura le Masters d'Augusta, donc on en parlera. Et d'ailleurs, j'aurai une annonce à vous faire, mais vous dire que le podcast golf, le Practice RMC, reprend à partir du lundi 10 avril. Et il y aura de superbes cadeaux à gagner. Je vous en parle la semaine prochaine.
Et le podcast vélo est toujours, évidemment, à votre disposition. Et on parle du Tour des Flandres de demain. Ouais. Et on parle de Laporte aussi. Et voilà, Christophe, Laporte que tu as.
Et je ne vais pas me permettre de faire la pub de basket, parce que je souhaite déjà qu'on a des scores. Donc voilà,
Sans parler d'entre les poteaux, évidemment, où on revient sur le Stade Toulousain et la Coupe d'Europe qui aura lieu cet après-midi et demain.
On peut pas faire juste un petit teasing de ce podcast
sur le golf,
pour dire
tu parles de golf, on parle des autres.
Très bien.
Et entre les tatamis arrive bientôt.
Merci. Je suis sûr tu me coupes l'air sous pied. Merci. Je voulais le.
C'est quoi mais ça, un bon podcast. Les fines lamelles de bœuf là.
Oui, exactement.
Oui, non, ça c'est entre les tatakis. Ça n'a rien à voir, c'est vrai. 10h57. On se retrouve dans quelques instants. Le bras de fer. Messi fait-il encore rêver? Oui, non. Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules du sport.